Sébastien Perrault, bonjour.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, on est en compagnie de Sophie Boisvert, elle est maman d'Ariel, 11 ans, qui vit avec la neurofibromatose. Et qu'est-ce qui, du moins pour moi, qui ressort en premier lieu lorsqu'on parle de cette maladie? Bon, bien sûr, c'est assez méconnu, mais c'est aussi toutes les manifestations qui sont bien dures à cibler parce qu'elles sont plutôt vastes, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Donc, c'est quand même une maladie qu'on dit rare, une maladie orpheline, mais qui est quand même assez fréquente. Là, on parle d'une personne sur 3000. Donc, au Québec, on estime qu'il y a environ 3000 personnes qui ont la neurofibromatose, mais il y a même une bonne partie de ces personnes-là qui ne le savent pas parce que c'est très léger. D'où vient un peu aussi les questionnements sur les familles, c'est-à-dire que quand on pose le diagnostic, ben même nous, on peut pas prédire l'évolution. Est-ce que ça va être très léger ou beaucoup plus sévère? Donc, c'est un peu ce que Mme Boisvert expliquait, c'est-à-dire on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, d'où un peu cette incertitude avec cette maladie-là.
Bien sûr, vous travaillez au CHU Sainte-Justine, donc vos patients, ce sont des enfants, mais lorsque vous dites, Dr Perrault, que certaines personnes vivent avec cette maladie sans savoir, est-ce que parfois le diagnostic peut arriver lorsqu'on est adulte?
Oui, bien en fait, ça arrive, je dirais assez fréquemment que l'enfant nous est référé pour une suspicion de neurofibromatose et que clairement, un des deux parents, la mère ou le père, a la neurofibromatose.
Des fois,
c'est très léger, des fois, c'est beaucoup plus évident, mais par faute un peu de je pense que parfois les médecins qui ont vu ces patients-là n'étaient pas au courant ou c'était très léger, donc ça passe un peu inaperçu. La personne fait normalement comme une vie tout à fait normale ou avec quelques difficultés, mais ça passe un peu inaperçu.
Ouais.
Donc, des fois, on diagnostique une famille au complet, des tantes et des grands-parents également en même temps.
Oui. Bon, maintenant, je voulais parler de ces manifestations, justement, qui peuvent être vastes. Dans le cas d'Ariel, il y a des taches café au lait sur sa peau, peut-être autre chose également. Comment la neurofibromatose peut se manifester ou les symptômes?
OK. Donc, en fait, quand on a la neurofibromatose, on est presque assuré d'avoir certains signes.
OK.
Maintenant, c'est très variable, effectivement, d'une personne à l'autre. Les premiers signes qu'on voit, c'est souvent des taches café au lait qu'on appelle. Donc, effectivement, des taches hyperpigmentées, c'est-à-dire brunantes sur la peau, qu'on peut voir au niveau du thorax, du dos, des jambes. Puis, habituellement, c'est apparent dans les premiers mois de vie. Donc, les parents se rappellent, dire oui, mais justement, quand elle avait 5-6 mois, on l'avait noté. Puis, avec le temps, on voit que ces taches-là viennent un peu plus foncées, puis plus nombreuses. Puis c'est à ce moment-là souvent que le médecin de famille ou le pédiatre va nous référer ou va se questionner par rapport à la neurofibromatose. Mm-hmm. Donc ça, c'est sensiblement le signe le plus fréquent. Après ça, d'où vient le nom un peu de la maladie neurofibromatose? Bien, c'est en raison des neurofibromes qui sont en fait des dilatations des nerfs dans la peau, souvent, qui donnent une petite bosse qui peut être très discrète initialement, mais qui peut prendre un peu plus d'ampleur puis venir à plus apparent. Donc, c'est comme un peu comme un petit kiss qu'on voit sur la peau à ce moment-là.
OK.
C'est bénin, c'est pas malin, ça se développe
pas. Ça fait pas mal.
Bien, ça fait pas mal. Des fois, ça peut leur piquer. Puis des fois, quand c'est mal placé, ça peut accrocher dans les vêtements, par exemple. Mais c'est pas dangereux en soi. C'est plus cosmétique, un peu comme les taches café au lait.
Sébastien Perrault, vous êtes neurologue. Vous n'êtes pas dermatologue. Donc, bon, là, depuis tantôt, on parle d'atteinte à la peau. Du moins, c'est de cette façon-là que je le comprends. Mais il y a des atteintes ou des lésions au cerveau aussi.
C'est ça. Donc, nous, on est impliqués avec cette patiente-là, puis dans la clinique, en raison, c'est effectivement une maladie qui touche la peau, donc c'est pas la même manifestation, mais qui touche tous les organes et donc le système nerveux central, le cerveau à ce moment-là. Ce qu'on va voir du côté du cerveau, en fait, c'est la plupart, en fait, les choses qu'on voit le plus souvent, c'est certaines, par exemple, difficultés de concentration. Tu sais, on parle de troubles du système de l'attention, d'hyperactivité, des fois, certaines difficultés d'apprentissage. C'est environ sur 60 % des patients qu'on va voir certaines discuter à ce niveau-là, mais encore là, d'un degré très variable.
Oui. Et on ne sait pas comment la maladie peut se développer. Vos patients, Dr Perrault, leur développement, ça se passe comment, à moyen ou long terme?
Bien, habituellement, ça se passe quand même bien. Des fois, il y a certaines étapes, surtout quand on les suit depuis quand ils sont très jeunes, qui peuvent prendre un peu plus de temps. Donc, par exemple, la marche, bien, des fois, c'est pas exactement un an, mais ça va être un peu plus tard, 15-16 mois, parce qu'ils ont un peu plus de faiblesse des muscles au niveau du thorax, par exemple, pour se bien se maintenir. Des fois, le langage peut être un peu plus long à acquérir. Donc, un peu notre rôle, c'est pour ça qu'on veut voir les patients plus jeunes, c'est vraiment tout mettre en place pour optimiser le développement. Puis, s'il y a des choses que ça prend un peu plus de temps, mais on met en place là, les services avec ergothérapie, physiothérapie, orthophonie. Là.
Il n'y a pas de traitement, à proprement dit, pour traiter la neurofibromatose, probablement des habitudes de vie à privilégier. Ariel fait de la gymnastique, Sophie, je pense, et c'était recommandé pour ralentir son développement, c'est ça? Ou sa croissance?
Oui, c'est ce qu'on nous avait dit. Elle n'en fait plus maintenant, mais elle en a fait quand même un bon 5 ans. Donc, effectivement, on nous avait dit que ça ralentissait le processus de croissance, en fait.
OK.
Ce qui était bon dans son cas. Et elle fait de la danse aussi. Okay. Donc, c'est bon pour l'équilibre aussi, parce que... Chaque fois qu'elle fait les examens en neurologie, on lui demande de sauter sur un pied ou sur l'autre juste pour voir son degré d'équilibre. Apparemment, qu'il y a un effet aussi de ce côté-là.
Mm-hmm. Donc, activité physique, sport, c'est une prescription à vos petits patients, Dr. Perrault.
Oui, exactement. Donc, c'est sûr que s'il faut, on met en place la physiothérapie, mais à cet âge-là, le jeu, que ce soit des cours de natation ou de la gymnastique, effectivement, ça stimule le développement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on privilégie, puis qu'on espère que les patients continuent à l'âge adulte, justement parce qu'on veut que... Parfois, il y a un vieillissement plus rapide des vaisseaux, donc on veut justement garder un bon niveau de forme, éviter d'avoir une bonne diète, puis éviter de fumer là, par la suite. Puis quand ils sont plus jeunes, c'est ça, de vraiment de commencer les bonnes habitudes de vie le plus tôt possible.
Maladie orpheline, mais quand même assez fréquente. Évidemment, on ne peut pas vous laisser partir, Dr. Perrault, sans parler de recherche et le nerf de la guerre. Et je pense que ça... Sophie a une réaction, vous ne la voyez pas, Sébastien Perrault. Et évidemment, ça concerne beaucoup les parents. On mise là-dessus, on a énormément d'espoir. Vous êtes chercheur clinicien. Vous, votre angle de recherche est la prise en charge des enfants et de leur famille. Comment on assure justement cette prise en charge pour qu'elle soit maximale?
Pour la prise en charge qu'on a comme développé au CHU Sainte-Justine, c'est avec on a un référent pivot, mais c'est vraiment d'avoir une clinique qui regarde tous les aspects de la neurofibromatose, donc pas juste les manifestations cutanées, mais aussi l'impact sur le développement, puis d'assurer qu'il y a une continuité, puis que les familles se sentent accompagnées là, justement dans le processus, mais aussi de mettre les autres spécialités en relation, donc c'est-à-dire faciliter que le suivi en orthopédie soit un besoin ou en neurochirurgie également. Donc vraiment d'accompagner la famille du diagnostic jusqu'à l'âge adulte, puis faire le transfert également pour continuer les soins à l'âge adulte. Donc ça, c'est un but. Mais au point de vue de la recherche également, on cherche à mieux diagnostiquer ces patients-là. Donc, par exemple, on fait un suivi régulier en ophtalmologie parce qu'on peut développer des tumeurs au niveau des nerfs optiques. Mais c'est souvent difficile à évaluer, donc on est en train de développer des nouvelles techniques pour mieux diagnostiquer ces patients-là. Par la suite, il y a des complications qu'on peut voir avec des tumeurs qu'on appelle au niveau des nerfs, des tumeurs plexiformes, qui sont beaucoup plus volumineuses que ce qu'on voit habituellement.
Plexiformes, qui signifie?
Ça veut dire que c'est un peu comme les neurofibromes qu'on a sur la peau, mais sur des nerfs beaucoup plus importants. C'est très volumineux, ça peut causer des problèmes de compression au niveau abdominal ou au niveau du cou. C'est plutôt rare, je veux dire, c'est moins de 20% que ça chez les patients, mais ça peut être problématique. Et on n'a pas de bon traitement jusqu'à présent pour traiter ces lésions-là. Donc, on a, par exemple, une étude qui vise à évaluer l'efficacité d'un médicament pour ces lésions-là.
Et j'imagine, Dr. Perrault, c'est de sensibiliser les spécialistes de la santé parce que, bon, tout à l'heure, on parlait de prise en charge rapidement, qu'il y a beaucoup, qu'il y a des patients qui pourraient vivre avec cette maladie sans le savoir. Si les médecins de famille sont au courant ou d'autres spécialistes de la santé, ça peut faciliter la prise en charge, justement, et les suivis.
Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'enseignements à faire auprès des collègues, que ce soit en neurologie, mais aussi des médecins de famille et pédiatres, pour mieux comprendre la maladie puis mieux la reconnaître. Donc, ça peut passer via... il y a des conférences qui sont organisées, par exemple, à chaque année, en créant des personnes ressources un peu aussi dans les régions qui ont une certaine expertise, là, sans avoir de clinique de neurofibromatose, mais qui voient plus de patients. Donc, qui viennent des alliés importants là, pour le suivi et la prise en charge de ces patients-là.
En terminant, Dr Perrault, Sophie, elle a une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez la poser, Sophie,
cette question? Bonjour, Dr Perrault.
Oui, bonjour.
En fait, j'étais curieuse de savoir, est-ce qu'après la croissance adulte, est-ce que ça arrête à un moment donné l'évolution de la maladie? Est-ce qu'on va avoir la tête tranquille après un certain temps?
C'est qu'en fonction de chaque âge, il y a différentes manifestations qui peuvent apparaître. Comme par exemple, après l'adolescence, on voit moins de taches caféolées apparaître. Ils viennent plus estompés, c'est plus discret. Les neurofibromes peuvent progresser davantage à des périodes plus où il y a des changements au niveau hormonal, par exemple à l'adolescence ou pendant les grossesses. Mais ça peut comme continuer plus tard. Les gliomes, les tumeurs qu'on parlait au niveau des nerfs des yeux, ça, c'est quelque chose plus de l'enfance. À l'âge adulte, on n'en voit pas. Mais il faut avoir un bon suivi médical également par la suite pour la pression, pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes qui se développent. Donc, c'est juste de rester c'est vigilant puis avoir un suivi régulier avec un médecin.
Vous allez continuer à aller... à faire vos suivis, Sophie, avec Ariel aux 6 mois.
Ça, c'est sûr.
Dr Perrault, on doit vous quitter. Merci beaucoup pour ces lumières. Je rappelle, vous êtes neurologue pédiatre au CHU Sainte-Justine et chercheur clinicien sur le sujet. Au plaisir, merci.
Merci beaucoup. Au revoir.